Écoute, tu es effrayant. C'est pas la peine de crier et faire ton discours.
C'est vraiment une question de diction ce soir dans le rendez-vous. En direct sur France Culture, il sera question aujourd'hui de vaudeville, de légende, d'icône, de Liz Taylor, de velours et même de patinage artistique. Avec Léa Drucker en bourgeoise chanelisée dans Un amour qui n'en finit pas, qui ne finit pas, un vaudeville romantique d'André Roussin ou comment retravailler aujourd'hui l'abattage des héroïnes boulevardières des années 60, Émilie Chaudet.
Des idoles d'enfance hollywoodienne et un cinéma qu'elle croit longtemps inaccessible, retour sur 24 ans de carrière entre scène petite et grand écran, de la fragile à la manipulatrice, de la romantique à la castratrice.
19h30, le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine. Ce soir, c'est le chef de chœur Lionel Sceau. Et puis 19h35, plateau icône avec Jean-Paul Manganaro qui signe Liz T. Autobiographie, un roman qui déploie les poses et affabulations d'une fille comme il faut. Elisabeth Taylor, Manu Farine.
Un roman qui se glisse tête et corps dans la psyché de Liz Taylor pour une autobiographie fictive placée sous le signe du miroir et de la traversée.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez que l'on ouvre avec le son du jour. Bonsoir Zoé Sfez, alors on va attaquer avec le son du jour, mais d'abord petite précision.
Petite précision, j'ai joint aujourd'hui Stéphane Correa. Il est critique d'art, commissaire d'exposition et il était à la tête du Salon de Montrouge depuis 7 ans, l'un des rares lieux de découverte des jeunes artistes contemporains français. Et jeudi, le maire UDI de Montrouge lui a signifié que malgré le grand succès de cette édition 2015, eh bien il n'était pas reconduit à son poste de commissaire. Même s'il dit qu'il n'a pas reçu de vraies explications de la part de la mairie, Stéphane Correa a livré son interprétation dans une tribune publiée dans le quotidien de l'art. Écoutez-le.
Si le Salon de Montrouge a pris la place qu'il a pris ces derniers temps, c'était en fait parce qu'il comblait un vide. Il n'y a pas de manifestation ou de lieu de prospection systématique réelle pour les jeunes artistes. Donc c'est ça la place que moi j'ai prise avec le Salon depuis 7 ans. Mais en fait, on se rend bien compte des limites de l'exercice. C'est pas une municipalité de 40 000 habitants de porter sur ses épaules quelque chose qui est de l'ordre vraiment du service public. Et pour moi, c'est pas du tout un hasard que aussi cette crise arrive au Salon au moment où le ministère a lancé ses assises de la jeune création. Je ne sais pas ce qu'il en sortira, mais je pense que effectivement, si on veut porter ces jeunes artistes français à un niveau national puis international, eh ben ça doit être une mission de service public. C'est le rôle du ministère, c'est le rôle de ces établissements et non pas des municipalités en plus de taille moyenne comme Montrouge.
Tout de suite, on passe au dossier du jour consacré aujourd'hui au tourisme culturel en Tunisie et en Égypte. Jeudi dernier, un attentat suicide sur le site de Karnak en Égypte a fait 4 morts. Et même si le pire a été évité, quelles peuvent être les conséquences de cet attentat sur le tourisme?
Alors, il faut dire que le gouvernement égyptien, dirigé par le militaire général Al-Sisi, a voulu absolument minimiser la portée de cet attentat qui survient, il faut le dire, juste après celui très tragique du musée du Bardo. C'était à Tunis. Écoutez, Fatih Saleh, il est en charge du patrimoine au gouvernement égyptien. Il assiste le Premier ministre. Il parle français, mais en raison de la mauvaise qualité de la ligne téléphonique, nous avons décidé de le traduire.
Ils ne peuvent pas faire quelque chose.
Leur but initial, c'était de faire un attentat à Sharm el-Sheikh. Mais le niveau de sécurité était trop haut et ils se sont donc rabattus sur Luxor pour faire parler d'eux. Heureusement, l'attentat a été largement un échec. Dès qu'ils sont arrivés sur le parking, les forces de sécurité les ont arrêtés et le kamikaze a fait des dégâts minimes. Leur but, évidemment, c'était de rentrer dans le temple et de tuer le maximum de touristes pour empêcher le tourisme de progresser dans le pays.
Fatih Saleh veut en fait montrer eh bien, que les forces de sécurité ont fait ce qu'il fallait, que la situation est sous contrôle, ce que confirme, dans une moindre mesure, Richard Venopoulos, il est président du réseau de tour opérateurs international Tourcom. Écoutez-le.
C'est vrai que le gouvernement égyptien maîtrise nettement mieux les attentats dans leur pays. L'éventuel attentat qui a failli se provoquer, c'est un coup de chance à mon avis, mais c'est déjà un bon point. C'est déjà plus rassurant que lorsque les attentats se font et que personne ne réagisse. Alors regarde, la Tunisie, par exemple, est un élément un peu plus surprenant puisque l'attentat du Bardo n'a toujours pas été solutionné, même si on sait plus ou moins qui sont les responsables. Mais on est quand même très proche de la frontière libyenne. On sait qu'il y a quelques villes en Tunisie qui sont sous le joug intégriste. Donc là, c'est une destination qui n'est pas forcément assurée sur un plan sécurité.
Oui, alors la Tunisie peine à convaincre après l'attentat du Bardo, même si le gouvernement a mis en place une commission de sécurité qui réunit tous les ministères concernés, donc celui de l'intérieur, du tourisme et de la culture. Il y a jusqu'ici peu de résultats. Les chiffres pour cet été s'annoncent très mauvais. Alors qu'en Égypte, Fatih Saleh veut croire que la belle dynamique qui s'est amorcée il y a un an et demi va continuer.
Avant 2011 et la révolution, nous avions 19 millions de touristes par an en Égypte. Pendant la révolution, la sécurité dans le pays n'était plus satisfaisante et les chiffres se sont alors écroulés. Mais cette année, on note une belle reprise par rapport à l'année dernière. On est à 14 millions de touristes par an et on vise les 20 millions d'ici 2 ans. À Louxor ou à Swan, on a encore des progrès à faire, oui, mais Sharm el-Cheikh est pleine de touristes.
Mais en réalité, en fait, si le tourisme reprend, eh bien, il ne s'agit plus vraiment de tourisme culturel.
C'est pas forcément culturel. Le tourisme culturel. Ouais.
Tout à fait. Les sites touristiques restent trop compliqués à contrôler, continuent à faire peur. Les touristes européens restent extrêmement réticents. Et en réalité, à Tunis et en Égypte, on retrouve surtout des touristes russes, anglais, attirés avant tout par la mer, comme nous l'explique Richard Venopoulos.
Bah, les destinations balnéaires sont plus faciles à protéger parce qu'une destination balnéaire, on est dans un camp, on va dire, avec des murs, avec des vigiles, donc il y a une véritable protection et à la rigueur, ça peut rassurer un peu. C'est vrai que l'Égypte est devenue plus balnéaire avec la partie Sharm el-Cheikh, alors qu'avant c'était plutôt une direction culturelle. Ça peut changer, mais je pense pas que le tourisme de toute façon reviendra. L'Égypte a un domaine culturel extraordinaire, mais c'est assez surprenant quand il y a eu le printemps arabe, par exemple, on s'est aperçu qu'on ne pouvait plus donc envoyer de clients en Égypte, les clients ne sont pas partis vers une autre destination culturelle, mais au contraire, une grande partie est partie plutôt dans des destinations balnéaires, comme l'île Maurice, comme l'Afrique du Sud.
Et oui, car c'est tout le problème, le tourisme culturel, c'est un travail de fond. Une fois qu'il a été un peu coupé dans son élan, c'est très difficile de le relancer. L'Égypte mise pour cela sur l'ouverture de 2 grands musées dans les 2 années qui viennent, à commencer par le grand musée de la civilisation égyptienne qui ouvrira en plein cœur du Caire historique fin 2016.
On poursuit avec les brèves, Zoé.
Et l'on ouvre avec l'arrivée à la tête du festival Le Printemps de Bourges de Boris Vedel, 37 ans, qui était jusqu'ici patron de la société de production Morgan Events. Il va remplacer Daniel Colling, 69 ans, qui avait cofondé le festival en 77 et le dirigeait donc depuis 39 ans. Il avait d'ores et déjà annoncé cette année eh bien, qu'il passerait la main pour la 40e édition.
On l'a appris depuis ce matin, la basilique de Nantes ravagée par un incendie.
Incendie spectaculaire qui a détruit les 3/4 du toit de la basilique Saint-Donatien et Saint-Rogatien à Nantes, qui date du 19e siècle mais qui n'était pas classée. Elle n'a heureusement fait aucun blessé, mais l'édifice mettra sans doute des mois, voire des années, à se remettre de ce sinistre.
Le Népal rouvre ses sites culturels.
Et oui, un peu plus d'un mois seulement après le séisme qui a tué plus de 1700 personnes et surtout fortement endommagé les 3 anciennes places royales de Katmandou, Patan et Bhaktapur, toutes les 3 inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les autorités promettent que les lieux sont sécurisés, mais l'UNESCO a fait part de ses réserves face à cette réouverture précoce alors que le pays subit encore de violentes répliques du séisme.
Et la dernière ?
La dernière, c'est une petite histoire, une histoire de, finalement pour moi, en tout cas, de la fin d'un mythe, celui du poète maudit. Et oui, car parution, dans les jours qui viennent, d'un document exceptionnel sur les coulisses de l'écriture poétique et de la recherche de la perfection esthétique, ce sont les épreuves corrigées de la main de Baudelaire, des Fleurs du Mal, qui vont paraître pour la première fois en France, puisque je rappelle qu'en fait, le manuscrit original des Fleurs du Mal n'a jamais été retrouvé. On n'a que les épreuves corrigées, qui sont un peu les seules traces manuscrites du chef-d'œuvre. Et alors, il y avait toujours ce mythe, notamment des connaisseurs de Baudelaire, qu'il aurait écrit tout ça, jeté sur des pages avec un élan poétique et que tout cela serait finalement, voilà, la grande œuvre du poète maudit. Et en réalité, pas du tout, puisque avant d'accorder son bon à tirer définitif pour l'impression des Fleurs du Mal, Charles Baudelaire a multiplié les échanges avec son éditeur et ami Auguste Poulet-Malassis. Et en fait, sur ces épreuves, eh bien, on retrouve des notes sur quasiment tous les mots. Il biffe, il remet un petit peu une petite virgule, il fait des petits débats sur l'orthographe, Sisyphe, I, Y, T, majuscule, quelle référence à quelle partie de quelle traduction de notre ami Homère, mon Dieu, de l'Odyssée. Et voilà, il modifie 3 ou 4 fois l'orthographe. En réalité, voilà, il était tout simplement très tatillon.
Pas forcément très tatillon, on peut appeler ça un auteur.
C'est un auteur, mais c'était Baudelaire, vous voyez. Oui. Il y avait l'opium, les femmes, la pauvreté.
Complètement sur une autre planète. C'était un auteur, avant tout. Est-ce qu'il y a des réactions de la part de nos deux invités, Léa Drucker et Jean-Paul Manganaro, à ce que l'on vient d'entendre?
Nous, on rature beaucoup en répétition, hein, ça c'est sûr, mais on n'est pas auteur.
Oh, d'une certaine façon.
Oui, mais pas comme Baudelaire.
Jean-Paul Manganaro,
c'est un sculpteur de la langue, donc le ciseau doit marcher à fond.
J'imagine.
Voilà.
Vous n'êtes pas particulièrement surpris par le fait qu'il travaillait son manuscrit ?
Non, pas du tout. Il avait un côté obsessionnel, de toute façon, qui le poussait à être parfait. Et il avait quand même beaucoup d'ennemis aussi. Donc, il faut faire d'autant plus attention que les choses sont graves.
Le rendez-vous.
Quelle question veux-tu encore me poser ?
Mais je ne veux pas, justement. Je me plie à tes désirs, mon cher.
Plateau platonique avec vous, Léa Drucker, actrice, un parcours qui commence au début des années 90, cinéma, théâtre, télévision aussi. Dernièrement, il y avait la série des Récrochants, excellente, Le Bureau des Légendes sur Canal+. Et vous êtes en ce moment à l'affiche d'Un amour qui ne finit pas, c'est au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Mise en scène, Michel Faux, la pièce est signée André Roussin, l'un des maîtres du théâtre de boulevard des années 60. Vous y interprétez Germaine, c'est l'épouse intrusive de Jean, c'est joué par Michel Faux. Il rentre de cure de Divonne-les-Bains où il a rencontré un rêve de femme à qui il décide de vouer un amour absolu, platonique, à l'opposé des aventures qui ont manifestement rythmé sa vie conjugale. Il a passé un marché avec cet inconnu, il lui enverra chaque jour des lettres enflammées, il n'attendra rien d'elle en retour pour bâtir enfin une relation amoureuse sans déception possible ni usure du quotidien. Évidemment, c'est sans compter avec la jalousie du mari de l'inconnu et vos propres intrigues. On vous écoute dans cet extrait.
Je m'apprêtais à aller te chercher.
Mais pourquoi faire?
Comment, pourquoi faire pour être à la gare?
Je t'avais dit de ne pas te déranger.
Pourquoi ça t'aurait dérangé, toi? Après 3 semaines d'absence, je pouvais te faire ce plaisir, il me semble.
Mais quel plaisir!
D'aller te chercher à la gare.
Ah oui, ben, tu vois, je t'aurais évité ce déplacement ennuyeux. J'ai pris un avion.
Un avion? Tu es revenu par avion?
Ouais.
Mais tu ne me l'avais pas dit. Mais alors, quand as-tu décidé de revenir par avion?
Mais franchement, qu'est-ce que ça peut bien te faire?
Mais écoute, tu es effrayant. Tu peux parler.
Mais si, on peut, on peut.
Et ton billet de chemin de fer, alors tu l'avais déjà pris?
Je l'ai rendu.
Eh bien, voilà. C'est pas la peine de crier et de faire ton histoire. La conversation avec toi n'est pas facile quand tu rentres de cure, mon cher. Voilà 2 fois en 5 minutes que tu veux changer de sujet.
Je rentre de cure dans un état de bonheur total. Et mon intention est de ne laisser atteindre mon euphorie par rien.
C'est toi qui le dis.
À condition qu'on ne mette pas les nerfs en plot.
Où? Qui? Où? Parfait, j'ai compris. Je paierai. Je te laisserai à ton euphorie. Et comme je n'ai plus le droit de te poser une question... Je prendrai ma tapisserie et tu feras des monologues. Ce sera charmant.
Léa Drucker, rien qu'en vous écoutant, on vous voit, bourgeoise en tailleur chanelisant, le chignon blond. Très sophistiqué. Et c'est dû, bien sûr, à cette diction très particulière hein, qu'on entend, cette diction du théâtre des années 60 qui rappelle le phrasé d'actrices comme Marthe Mercadier ou on pense aussi à Jacqueline Maillan, à Maria Pacôme. Est-ce que c'est dans cette direction, j'imagine, que vous avez travaillé avec Michel Faux?
Oui, en tout cas, c'est des actrices qu'on aime tous les deux énormément et qui sont des inspirations depuis toujours. Et pour Michel et pour moi. Michel, moi, j'avais vu Michel dans des spectacles d'Olivier Py où je voyais des actrices comme ça à référence.
Ah ben, et il arrivait, il jouait Tata je sais pas trop quoi, et c'était Jacqueline Maillan qui arrivait sur scène.
Voilà, bon, donc on s'est, je crois, retrouvé là-dessus. Curieusement, on avait travaillé sur une pièce de Monterland qui était très noire.
Auparavant, ouais.
Qui était magnifique, qui s'appelait Demain il fera jour, qui était une pièce très sombre, une tragédie, mais... Michel m'avait vu dans un Feydeau, il savait que j'aimais ce style.
Le système Rivadier.
Michel a eu cette tendresse et ce regard, pour moi, où il a compris ce que je voulais jouer. Et que j'ai toujours rêvé de jouer ça, mais quel metteur en scène pouvait être assez fou pour m'imaginer là-dedans? C'est-à-dire quelque chose qui physiquement est très différent de moi. Mais finalement, en fait, c'est moi aussi. Hein. C'est juste que c'est quelque chose que je cache un peu.
Vous avez dû passer dans les aigus?
Curieusement, j'ai remarqué que les pièces très bien écrites, au bout d'un certain temps, vous donnent le ton. C'est-à-dire que si on se laisse porter par le texte, il y a à un moment donné des choses des couleurs et des sons qui, on n'a pas à le décider, en fait. Ça vient tout seul, ça vient sur l'écoute avec avec Michel Faux ou avec Pierre Cassignard. Et le costume, la coiffure, tout se rejoint à un moment donné aussi dans le son.
Parce que là, quand vous écoutez, vous voyez bien que vous êtes passé quand même à un registre...
Oui, mais après, elle va dans les graves quand elle rentre dans le vif du sujet.
C'est un jeu plutôt subtil, d'ailleurs, pour la pièce. Ce n'est pas un effet d'imitation, mais c'est plutôt comme si vous jouiez à rejouer la tradition des années 60. Est-ce que vous avez dû regarder l'adaptation qui en avait été faite, par exemple, de cette pièce par Pierre Sabag pour Au théâtre de ce soir?
Non.
Ou vous avez re-regardé des pièces de cette époque?
Non, c'est des pièces qui sont très... que j'ai vraiment dans la tête, parce que c'est des pièces que je regardais avec ma grand-mère quand j'étais petite.
On
se mettait devant la télévision, on regardait Au théâtre ce soir. Et j'adorais ces dames. Ces dames qui étaient en fait des dames un peu canailles. Et j'ai toujours eu énormément Oui, j'avais une passion pour ces actrices-là.
Mais une plus que d'autres ?
Mais j'adorais Pacôme, j'adorais Maillan. J'ai revu Maillan dans On purge bébé de Feydeau avec Jean Poiret, Michel Serrault par Bluval. C'est éblouissant. Parce que c'est en même temps c'est très musical, c'est très très drôle, mais il y a aussi une férocité qui me plaît beaucoup. Donc évidemment, c'était des choses. Michel, il aime ce style-là aussi. Il aime. Cette époque, je pense aussi à Jacques Tati, dans Mon Oncle. Je me souviens de ces personnages féminins qu'on voit parfois un peu... pas de dialogue, mais qui s'expriment avec des interjections, des choses comme ça. Donc ça aussi, c'est des choses qui m'inspirent beaucoup. Et puis des dames que j'ai connues dans ma vie aussi. C'est-à-dire, j'aime bien ce mélange de cette sorte de bourgeoisie, comme ça, très apprêtée, qui en fait est très folle. Et c'est des choses qui me font beaucoup rire. Le Mercier aussi, Valérie Le Mercier est une actrice aussi qui m'inspire beaucoup. Alors c'est des références et on aimerait bien jouer aussi bien qu'elle. Je parle pour moi. Mais je trouve toujours intéressant quand on est acteur de s'inspirer de certaines personnes, d'images, de codes et de trouver aussi le metteur en scène qui sait aussi mettre en scène ce style. Parce qu'il a du style, Michel, dans sa mise en scène et dans sa direction d'acteur.
Jean-Paul Manganaro, je sais que vous travaillez aussi un autre théâtre. Par exemple, on vous doit la nouvelle traduction d'Affabellusione de Pasolini,
oui. Ouais,
pour Stanislas Andet. Comment vous regardez cette tradition française du vaudeville, notamment au travers les années 60 ?
Moi, très bien. C'est quelque chose que vous connaissez ? C'est une source d'amusement incroyable. Enfin, oui. Puis il y a une tradition réelle, c'est pignon sur rue tout le temps. Enfin, j'ai entendu aussi un petit ton atmosphère, enfin Hôtel du Nord, dans votre voix, et c'est fabuleux. Enfin, bon, il faudrait citer une liste beaucoup plus longue, effectivement, de grands caractères féminins de ce théâtre français qui a été extrêmement riche et généreux, en fait.
Émilie Chaudet.
Vous faisiez allusion à l'instant, Léa Drucker, au texte sur lequel vous avez travaillé sous la direction de Michel Faux en 2012. C'était Demain, il fera jour, de Monterland, au Théâtre de l'Œuvre aussi. Et là aussi, vous formiez un couple très étrange avec Michel Faux. Vous étiez une mère abusive, intrusive, limite incestueuse avec son fils. Des rôles qui vous éloignent un peu de ce qu'on a vu de vous déjà, c'est-à-dire des personnages qui subissent un peu plus. Alors, quel genre de metteur en scène c'est Michel Faux ? Quel genre d'indication est-ce qu'il peut vous donner ?
Michel, il est très ludique. C'est quelqu'un qui, en répétition, s'amuse beaucoup. Mais c'est quelqu'un, en même temps, qui est comme un chef d'orchestre. Il est très musical. Il a d'ailleurs monté un opéra à Bordeaux. Je crois que c'était Dardanus, là, il y a quelques mois.
Et puis, il avait fait un spectacle hommage à des divas aussi.
Voilà, le récital emphatique.
Le récital emphatique.
Donc, il a une direction très musicale, très précise, pour mettre en valeur les textes qu'il choisit. C'est aussi quelqu'un, je pense, qui a un grand talent pour choisir des textes très curieux, très... Demain, il fera jour était une pièce assez peu connue de Monterland. C'est pareil pour cette pièce d'André Roussin. Et c'est toujours des pièces qui mélangent un peu les genres. C'est-à-dire qu'on est... Demain, il fera jour, ça commençait quasiment comme une comédie de boulevard et ça terminait en tragédie terrible. Et là, c'est pareil, on se promène entre le boulevard, c'est drôle, mais en même temps, il y a une vraie cruauté, une vision très cruelle de l'amour, très pessimiste et très... très, très... En répétition, on se disait... Parce qu'avec Michel, pardon, excusez-moi, mais ce que je veux dire, c'est quand on était en tournée sur le Monterland, Michel faisait la prochaine fois, enfin quelque chose de drôle. Et quand on était en répétition avec le Roussin, d'un moment avec Pascal Arbillot et Pierre Cassignard et Michel, on se dit, mais c'est pas si drôle que ça, en fait. Et en présentant la pièce devant le public, on a retrouvé le rire de la pièce.
Mais qui n'est pas forcément inscrit dans le texte,
Et de temps en temps, la pièce se promène dans des zones un petit peu féroces, un peu cruelles, pessimistes, mais très modernes. Je trouve que c'est quelque chose... La vision de l'amour d'André Roussin n'a pas vieilli.
Vous avez commencé votre formation théâtrale au lycée, à 15 ans, puis l'école de la Rue Blanche, je crois aussi le cours Florent. Quel répertoire vous aimiez à vos débuts, Léa Drucker ?
J'ai commencé par Courteline. Non, j'ai commencé par Marivaux à l'école. Ensuite, j'ai beaucoup aimé travailler le boulevard. Je me souviens, j'avais un professeur qui m'avait fait travailler ça. C'est là où je m'étais le plus épanouie.
Et puis dans des rôles d'épouse bafouée ou de servante cervelée ?
Épouse bafouée. Et donc, je me disais, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien jouer au théâtre. Et puis ensuite, j'ai surtout décroché des rôles au cinéma et à la télévision, qui étaient des choses beaucoup plus réalistes et plus proches de mon âge. Mais curieusement, je me souviens de Serge Azanavicius, qui m'avait donné ce magnifique personnage de 84, Charing Cross Road, donc le rôle de Helen Hanf, qui était un personnage beaucoup plus âgé que moi, qui avait une cinquantaine d'années. À l'époque, j'avais 25 ans ou 26 ans, je sais plus. Et c'est des personnages que je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que ils s'approchent de gens que j'ai connus dans ma vie ou de gens qui m'ont séduit dans la vie, mais dont je me sens bizarrement très proche. Peut-être j'étais âgée, très jeune. Peut-être.
C'est peut-être ça, parce que c'est exactement la même chose que vous faites dans cette pièce-là. Vous êtes plus jeune que le rôle.
Oui, oui, oui. Enfin, en même temps, à l'époque, le style pouvait vous vieillir aussi un peu. Mais c'est très, très. C'est très agréable, en fait.
C'est presque Valérie Le Mercier dans Palace.
Que j'adorais, que j'aimais beaucoup.
Jeune, vous aviez à l'écran. Comme à tous nos invités depuis le début de la saison, on vous a demandé un son qui vous a marqué. Vous en avez donné plusieurs, on en a retenu deux. Le premier. Et une pirouette. Qu'est-ce qu'on entend et pour quelle raison ?
La lame, c'est la lame sur la lame d'un patin sur une glace, et qui donc c'est lié donc à mon enfance, à peut-être mes premiers pas dans le spectacle, parce que c'était là quand on faisait du patinage, on était parfois tout seul sur la glace pour faire un numéro ou pour faire une démonstration. Et donc il y a une solitude, et ce son est quelque chose qui a vraiment accompagné mes journées pendant très longtemps et qui me faisait rêver. C'était un endroit de liberté, de plaisir, de difficulté, de douleur parfois, mais de compétition. Mais c'était une émancipation en fait. C'était peut-être la première fois que je me suis dit, tiens, voilà ce que je voudrais faire dans ma vie, je voulais être patineuse. Donc jusqu'à 13 ans, je voulais être patineuse.
Qu'est-ce qui vous a fait arrêter ?
La compétition, qui était trop difficile. J'avais pas le mental d'acier qu'il faut pour être un grand sportif. Et puis un déménagement. Et puis une séparation, un déménagement. Et puis voilà, je suis passée à autre chose.
Est-ce qu'il en reste quelque chose de ce patinage, de cette formation, dans la façon que vous avez d'être, par exemple, sur scène, une certaine physicalité ?
Je crois qu'il y a ça. Ça m'est resté. Et puis une rigueur, effectivement, une rigueur d'entraînement, de travail. Alors avec le théâtre c'est autre chose, ou avec les textes c'est autre chose, mais il y a quand même un engagement en fait qu'il faut, et physiquement, vocalement, et puis spirituellement aussi, en même temps tout en s'amusant quand même dans la vie. Enfin je veux dire, on n'est pas des moines, hein, loin de là, mais il y a quand même un engagement psychologique très très puissant.
On vous faisait danser sur quelle musique ?
Alors j'avais choisi la musique des aventuriers de l'Arche perdue.
Pour la compétition ? Vous avez été combien ?
Indiana Jones. J'étais troisième, je suis arrivée troisième.
Sur combien ?
Sur, je ne sais plus combien, une vingtaine peut-être.
Ah oui, quand même.
Oui, oui.
Parce que moi j'ai été troisième sur trois, c'est pour ça.
Bah, mais vous étiez sur le podium.
Oui, mais on était trois.
C'est tout ce qui compte.
Émilie ?
Alors, vous dites que jusqu'au début des années 2000, votre carrière ne décolle pas. Vous collectionnez les petits boulots pour survivre, manutentionnaire pour les boutiques de vêtements dans le Sentier, ouvreuse de cinéma aussi au McMahon dans le 17e. Et puis, vous êtes sur le point d'arrêter à l'âge de 28 ans jusqu'à ce que le metteur en scène John Pepper vous propose le premier rôle de sa pièce d'Annie et la Grande Bleue. C'était en 2000 donc. Et il a insisté pour que ce soit vous, jusqu'à vous proposer de vous payer pendant les répétitions. Et la pièce a été un succès. Vous avez même été nommé au Molière dans la catégorie de la révélation de l'année. A posteriori, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas dans cette pièce ? Qu'est-ce qui vous a fait hésiter ?
Plutôt, vous voulez dire dans mon parcours ?
Oui, c'est-à-dire, voilà. A priori, oui. Qu'est-ce qui ne marchait pas selon vous avant cette pièce ?
Oui, voilà, c'est ça. C'est
très compliqué parce que...
Parce que maintenant, le temps a passé, vous avez peut-être compris ce qui...
Oui, oui, oui. Alors, en fait, à 20 ans, on ne se connaît pas forcément. Et je crois que quand on se présente devant des metteurs en scène, des directeurs de casting ou une audition, c'est vrai que les metteurs en scène attendent une proposition forte par rapport au personnage qu'ils ont écrit. Et que lorsqu'on a 20 ans et qu'on ne sait pas très bien qui on est, qu'on est un peu complexé par certaines choses, on n'a pas forcément, on vous laisse pas forcément le temps de montrer ce que vous savez faire. Mais de toute manière, ce que vous êtes fait partie aussi du travail. Donc moi, il m'a fallu 10 ans pour comprendre un peu mieux qui j'étais. C'est très important quand on est comédien, mais on ne le sait pas forcément à 20 ans. C'est pour ça que je dis aux comédiennes, aux jeunes comédiens, que chaque parcours est particulier. On n'est pas obligé de devenir une star à 20 ans, parce que c'est trop de pression que d'imaginer que si à 20 ans ça marche pas, donc la carrière est foutue, c'est pas vrai.
Même si vous étiez prêt d'arrêter quand même à 28 ans.
Oui, parce que je me suis dit bon, c'était trop laborieux et que j'étais pas, je m'épanouissais pas et que c'était, j'avais plus de bonheur à me dire que je voulais être comédienne. C'était plutôt quelque chose qui devenait anxiogène et donc j'ai laissé tomber et en même temps pas complètement. J'ai continué à faire des stages et tout ça. Donc je faisais d'autres boulots à côté, mais je continuais à faire des stages jusqu'au jour où j'ai fait cette audition et on m'a engagée et tout est parti de là. Mais parce que j'avais très faim en fait à 28 ans, dans le sens au niveau du travail, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on m'a donné ma chance, j'avais tellement été frustrée avant que j'étais prête à tout donner pour cette pièce. De mon énergie physique et mentale, voilà.
Je disais aussi dans un entretien qu'il y avait eu aussi des rencontres manquées avec des metteurs en scène au cours de cette carrière, et notamment une qui vous a suffisamment marqué pour que vous réalisiez un court-métrage en partant de cette anecdote, c'est le jeudi 15h. C'était qui ce réalisateur, en fait, et qu'est-ce que cette rencontre marquée a pu provoquer ensuite chez vous? Prescription, maintenant.
Il y a prescription. Qui c'était?
Ouais.
J'ai jamais osé le dire, mais je vais peut-être vous le dire à vous, alors. Parce que vous avez fait du patinage artistique.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est un metteur en scène de théâtre, c'était Peter Stein, en fait.
Ah ouais?
Voilà. Et il se trouve que j'avais vu une pièce à Londres, mise en scène par Peter Stein, qui était une pièce qui s'appelait Blackbird, et qui m'avait mis à genoux. C'est-à-dire, j'étais allée voir cette pièce, j'avais des amis à qui j'avais payé des places qui m'avaient planté ce soir-là, donc j'étais toute seule. Et j'ai vu cette pièce, et que c'était joué par un grand acteur anglais, qui s'appelait Roger Allam, et une magnifique actrice, jeune actrice, qui s'appelait Jodie May. Une pièce de David Harrower. Et je suis sortie du théâtre en errant dans les rues de Londres et en me disant « je veux jouer ça ». Et c'était Peter Stein qui avait mis en scène. Il se trouve que quelques années plus tard...
Vous allez adapter cette pièce.
Avec Zabou Breitman, j'ai joué cette pièce avec Maurice Benichou et ça a été une expérience vraiment très puissante et très forte pour moi et très importante. J'ai appris beaucoup avec Maurice Benichou. C'est Claudia Stavisky qui avait fait la mise en scène de cette pièce. Et des années plus tard, on me dit « Peter Stein est à Paris, il veut rencontrer des actrices. Et tu as rendez-vous avec lui. » Donc ça a été un rendez-vous que j'ai préparé une semaine. J'ai tout lu, je parlais que de ça à la maison, mes pieds touchaient plus le sol. Et j'ai mis une telle pression sur ce rendez-vous que le matin à 8h30 ou à 9h, mon agent m'a appelé en me disant « le rendez-vous est annulé. Peter Stein ne veut plus rencontrer personne. » Mais on me l'a annulé une heure avant. Peu importe que je sois prise ou pas, c'était que je voulais le rencontrer et parler avec lui de tout ça. Et donc j'ai été extrêmement frustrée, malheureuse. Mais au final, j'en ai fait un court-métrage plutôt comique.
L'autre son que
on est toujours un peu dans un Woody Allen. Hein. Vous savez, dans ce métier, on peut voir ça de façon noire ou de façon très drôle.
L'autre son que vous aviez demandé, le voici.
Allez, ramasse tes affaires et viens.
Hélène ne viendra pas. Vous allez la laisser tranquille et partir très vite.
Dis donc, comment on dit petit con dans sa langue?
Quoi?
Ah. Allez, dépêche-toi maintenant, viens.
Jean-Paul Belmondo.
Ah oui.
Ouais.
Ah bah, je suis amoureuse de lui et de sa voix. C'est le magnifique, non, là?
Non, c'est pas le magnifique. C'est le casse avec Charles Bronson.
Oh, c'est magnifique, ça. Non, mais de Henri Vernin avec la musique d'Ennio Morricone.
Exactement. Vous avez tourné avec lui en plus.
Alors voilà, c'est ça.
Dans un film de Clapiche.
J'ai tourné dans un film de Clapiche où j'avais une scène avec lui. Et j'étais évidemment très intimidée. Et en fait, le premier jour de tournage où j'ai pu le croiser, il est d'ailleurs absolument charmant. En fait, il se trouve qu'on était très costumés. On était en Lulite. C'était un film qui se passait un peu dans le futur. Et donc Jean-Paul Belmondo avec des cheveux longs, il avait un costume, il était très bronzé, tout ça. Mais tout d'un coup,
c'était pas lui, quoi.
Et j'ai entendu sa voix. Il jouait Cyrano le soir, donc il était obligé de garder. Il avait les cheveux longs, je me souviens. Et en fait, j'ai tout d'un coup entendu sa voix. Et ça m'a, ça m'a transporté dans tous les films. La voix est tellement puissante, et de Belmondo, puis surtout la voix en général, des choses très sensitives, que je me suis, j'ai été, j'arrivais plus à rien faire, quoi. J'étais muette d'admiration et de plaisir d'entendre cette voix. Et c'est vrai que Jean-Paul Belmondo est pour moi un des plus grands acteurs français. Qui a fait des films que je trouve inoubliables. Mais j'étais amoureuse de lui, donc. Voilà. Et alors, il y avait une scène où il me jetait contre une porte vitrée, c'était une cascade, et Clapiche se sentait très coupable de me faire faire ça, il n'arrêtait pas de venir me voir en me disant « ça va », je dis « mais non, c'est génial, encore !» J'étais ravie.
On va rester sur cette question de voix.
Le rendez-vous extérieur.
Oui, il va être question de voix dans le questionnaire autoportrait de Manu Farine ce soir dans la série Les professionnels de la profession. Manu Farine a rencontré le chef de chœur Lionel Sault, Manu.
Un parcours virtuose côté violon, doublé d'une vocation précoce de chef
chef de chœur. C'est ce qui l'a mené à diriger la maîtrise de Notre-Dame de Paris avant de prendre la direction du chœur de l'Orchestre de Paris, qui est logé depuis peu à la Philharmonie. Et c'est là que je l'ai rencontré, alors qu'il répétait une petite messe solennelle de Rossini donnée il y a 10 jours, en attendant la 9e de Beethoven qui sera jouée pour la fête de la musique.
Questionnaire Lionel Sceau, Manu Farine.
Le compositeur de votre enfance.
Ouh, ça c'est délicat, il y en a eu plusieurs. Probablement parce que j'étais violoniste, Vivaldi en a été un. William Byrd, parce que c'était le premier contact, je pense, avec la musique de la Renaissance et qui m'a beaucoup marqué par la sérénité de cette musique, par son expressivité, à la fois le calme et la richesse qu'elle véhicule.
Un chef de chœur ou un chœur qui a pu fonctionner comme référence ou comme modèle pour vous?
Alors, si on parle au passé, je dirais les chœurs anglais. Les chœurs anglais, voilà, parce que j'étais dans un chœur d'enfant moi-même et d'entendre les maîtrises anglaises était toujours... très étonnant d'entendre la qualité, de l'homogénéité, de la justesse, et puis là, ce sentiment de facilité. Et à l'heure actuelle, je dirais aussi un chœur anglais, puisque le Monteverdi Choir, pour moi, est un chœur très frappant, par sa, à la fois sa puissance, sa qualité d'ensemble, vraiment le son ne fait toujours qu'un, et sa flexibilité d'un répertoire à l'autre. Ils peuvent être dans des couleurs de chœur vraiment très différentes, avec toujours le même degré de qualité.
La partition qui vous aura le plus résisté?
Il y a des partitions qui, c'est pas qu'elles résistent, c'est qu'on, à chaque fois qu'on les reprend, on se rend compte qu'on était à côté la fois précédente. Par exemple, les Vêpes de Monteverdi, c'est une œuvre qui est évidemment de la musique ancienne, donc tout n'est pas noté dans la partition, donc énormément de travail à faire. Et sur chaque numéro, il faut inventer des choses d'orchestration, il faut inventer des choses de disposition vocale, de qui chante quoi. Et puis, tout est à imaginer, les tempi, l'enchaînement entre les différentes parties, le caractère qu'on veut donner, quelle souplesse on laisse à l'interprète aussi dans le tempo, est-ce qu'on le laisse être vraiment dans un rubato permanent ou est-ce qu'on lui explique que non, il est bien de respecter une certaine mesure. Même si... voilà, c'est vraiment plein de questionnements.
Le compositeur que vous aimiez, que vous n'aimez plus ou que vous aimez moins?
Ah bah ça c'est Vivaldi, ça c'est sûr. Parce que en tant que violoniste, quand on est petit, on est très fier de jouer des concertos de Vivaldi, c'est très agréable. Et puis c'est vrai que c'est de la musique très sympathique, bien faite, qui sonne bien. Et puis j'ai tendance maintenant à trouver un petit peu simpliste.
Le compositeur que vous avez fini par aimer ou que vous avez appris à aimer?
Oh bah ça alors. Si, bien sûr, Beethoven. Bien sûr que je n'aimais pas du tout pendant mes études, que je trouvais... extrêmement austère, intellectuel et un peu rébarbatif, et en tout cas manquant de charme, manquant singulièrement de charme. Peut-être aussi en découvrant d'autres types d'interprétations des symphonies de Beethoven, j'ai pu comprendre qu'en fait, le charme était présent sous un abord parfois un peu rude. Et je l'ai toujours trouvé intéressante, l'œuvre de Beethoven, mais j'ai eu du mal à l'aimer. Ça va mieux.
La partition que vous n'êtes pas prêt à diriger?
Oh ben ça, c'est très simple, hein. Comme ça, les trois qui me viennent, c'est les deux passions de Bach et la messe en si. Parce que ça, c'est trop effrayant pour l'instant. C'est une sorte de sainte crainte face à ces partitions. C'est pas technique le problème, c'est qu'est-ce qu'on va en dire et qu'est-ce qu'on a vraiment à en dire de plus que des gens qui ont passé leur vie dessus.
La partition que vous êtes en train de travailler?
Celle que je suis en train de répéter, en tout cas, c'est la petite messe solennelle de Rossini. Que j'aborde depuis 2 ans. Progressivement, je me rends compte que je me range aux décisions du compositeur. C'est-à-dire que mes premières interprétations, il fallait que je change les tempi, il fallait que je... rien ne me convenait. Et plus je la travaille, plus je constate qu'en fait, je me rapproche des tempi proposés sur la partition, etc. Donc je me dis sans doute que c'est bon signe.
Lionel Sceau, merci.
Léa Drucker, est-ce que ça peut faire écho à la façon que vous avez travaillé, vous, vos textes de théâtre ou au cinéma?
Ce que j'entends me fait... Je pense que ce serait plutôt Michel Faux qui pourrait parler de choses comme ça, c'est-à-dire sur changer se rendre compte tout d'un coup, en travaillant le compositeur ou l'auteur, qu'il vous donne les directions que vous aviez prises n'étaient pas bonnes. C'est plus un travail... J'ai l'impression que ce que j'entends est des paroles de metteur en scène aussi.
Est-ce que vous avez travaillé votre voix? Dans votre formation de théâtre?
Elle s'est travaillée en fait en faisant du théâtre. Elle s'est travaillée. En fait, ma voix se travaille toute seule en fonction des personnages et du fait qu'il y a une portée vocale effectivement à assumer dans les théâtres. Elle s'est un peu travaillée toute seule, mais c'est vrai que elle change en fonction des rôles aussi. Il y a des personnages qui sont plus graves, d'autres qui sont plus aigus. Moi, j'ai toujours aimé chanter. J'étais à la chorale quand j'étais petite, donc j'aime la musique, donc je chante. Pas professionnellement, mais je chante. Mais donc la voix est un instrument pour nous essentiel.
Le rendez-vous.
She doesn't seem well, grandfather.
Poor lassie.
Poor lassie. Poor girl.
Plateau Elisabeth avec vous. Elisabeth Taylor, que l'on vient d'entendre, enfant et beaucoup plus âgée. Jean-Paul Manganaro, vous êtes essayiste, traducteur avec plus de 175 romans traduits en français, romancier, vous-même professeur de littérature italienne contemporaine à Lille. Et vous signez aujourd'hui Lise, tes autobiographies chez POL, un roman que vous avez travaillé comme un long discours indirect libre pour se glisser dans la psyché de Lise Taylor. Le récit chemine comme une rêverie mélancolique. On s'attarde sur son enfance volée par les rêves d'une mère actrice, sur quelques films évidemment, sur la façon dont ces films ont pu la traverser, sur son corps que vous habillez, déshabillez, sur des gestes sexuels qui se répètent dans la vie et dans ses films, le tout pour une actrice qui a toujours su qu'elle était, c'est écrit plusieurs fois, comme il faut. Ça veut dire quoi pour vous ce « comme il faut » ?
Pour moi c'est des mots, mais pour elle ça devait correspondre à quelque chose de... qui était le passage au fond entre la mère et la fille. Enfin, il faut un code, et ce code doit être respecté d'un bout à l'autre. Il consiste en un certain nombre de mises en place, de regards, de manières, de gestes, de démarches qui constituent petit à petit à la fois celle que la mère veut, celle qu'elle veut avec sa mère, et celle que le destin fera. Enfin bon, et ça correspond quand même aussi à une attitude sociale et morale. Elle appartient d'emblée à une classe plus que bourgeoise, en fait.
Vous avez écrit sur Fellini, vous avez traduit Carmelo Bene, côté italien, donc comment Lise Taylor s'est imposée à vous? Parce qu'on vous attendait du côté, je sais pas, d'Annia Magnani ou de quelqu'un d'autre.
C'est les surprises de l'enfance.
C'est-à-dire, vous avez rêvé sur Elisabeth Taylor dans La Scie?
J'adorais cette actrice et j'allais voir tous ses films. J'ai une histoire un peu particulière avec le cinéma parce que ma mère a été transposée en Sicile en 1946. Elle s'ennuyait tellement en Sicile qu'elle allait au cinéma tout le temps. Mais elle ne pouvait pas y aller seule, donc elle amenait ses enfants. Et donc j'ai vu du cinéma, mais à longueur de temps, jusqu'à l'âge de 11 ans. Et dès qu'il y avait Elisabeth Taylor, moi c'était vraiment une impulsion très, très forte en fait. Et j'ai gardé dans... Je suis sorti de mon adolescence en me disant, il faudra qu'un jour j'écrive sur Fellini et sur cette actrice qui me plaît beaucoup. Bon, ce que j'ai fini par faire 50 ans après.
Rien n'est jamais trop tard.
Et voilà, enfin bon.
Léa Drucker, vous, c'est du côté de votre père, je crois que le cinéma vous a atteint comme un virus, oui. Parce que vous alliez voir beaucoup de films avec
beaucoup,
lui.
Oui, mon père qui était donc médecin, son évasion c'était le cinéma, son coin de repos, et lorsqu'il avait un jour de congé, on allait au cinéma, mais il aimait on allait dans les cinémas d'art et d'essai. Il allait pas les voir, il voulait pas aller voir les nouveautés, on allait voir les vieux films, on allait revoir...
Donc plutôt les films noirs, même hollywoodiens?
Oui, les films hollywoodiens, oui.
Est-ce qu'il y a des actrices qui vous ont plus particulièrement marqué? Elisabeth Taylor peut-être pas, mais plutôt...
Moi j'aimais beaucoup aussi Elisabeth Taylor, mais il y avait Rita Hayworth, il y avait Kim Novak, moi j'aimais ça, en fait quand j'étais plus jeune, quand j'étais gamine, je disais un peu, mon père c'était Kim Novak et tout ça, donc je disais un peu tout comme lui, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup les films de Hitchcock, enfin le Vertigo, on est allé le voir 3-4 fois, mais Rita Hayworth, Judy Garland, moi c'était Judy Garland surtout.
Votre grand-mère d'ailleurs avait un rapport avec
ma elle. Grand-mère avait une voix un peu comme Judy Garland. Elle chantait, elle s'accompagnait au piano.
Manu Farine.
Jean-Paul Manganaro, dans cette autobiographie romancée, pas de date, pas de nom, pas d'âge, quasiment pas de titre de film, juste des évocations, des pensées, des images, des objets, comme si vous vous défiez de l'objet biographique ou de la biographie.
J'ai écrit ce livre en lui donnant un titre un peu particulier, c'est-à-dire autobiographie. Au-delà du côté humoristique, il y a aussi le fait que chacun de nous ne pense jamais en date, en titre, mais se pense dans une intimité qui lui est personnelle et qui donne des couleurs à certains détails, à pas d'autres. Enfin, on ne se dit jamais « je suis né en 1944 ». Enfin bon, on le sait tellement qu'on ne le fait pas. Enfin bon, on dira plutôt « j'ai tel âge », j'ai l'impression, je ne sais pas. Mais voilà, c'est une pensée qui tourne autour d'elle-même, au fond. C'est ça le pari littéraire, en fait, le pari de l'écriture. Et donc, tout ce qui est... tout ce qui est vrai, je mets ce mot entre beaucoup de guillemets évidemment, devient comme un relief gênant en fait, bon, et que la pensée n'arrête pas d'évoquer, de caresser, de toucher avec un feutre les choses. Il faut que ça passe ensuite dans l'écriture, c'est tout le problème.
Hein. Léa Drucker, je crois que vous avez eu le temps de regarder un petit peu le livre. Est-ce qu'il y a des aspects qui vous ont plus marqué que d'autres ?
Non, c'est-à-dire que c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant parce que il est impressionniste un peu, je trouve, dans la façon de raconter d'ailleurs il n'y a pas la volonté, je crois, de raconter le personnage, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'impressionnisme où c'est très charnel, c'est sensitif et il y a plein de passages lorsqu'elle évoque les souvenirs qui sont comme des clichés où ce sont des choses qu'on peut que nous, acteurs, on fait de la mémoire sensorielle, on a cette sensation-là en lisant le livre aussi que tout est raconté comme ça, comme une sorte de mémoire sensorielle et très organique. Voilà ce que j'ai ressenti. Et en effet, on n'est pas dans l'anecdote du tout, même y compris la rencontre avec Richard Burton sur le tournage de Cléopâtre. On est plus dans un choc émotionnel, sexuel, mais pas dans quelque chose de trop, j'allais dire, grossier dans le sens très réaliste, très factuel. Voilà.
Oui. Jean-Paul Manganaro. La première rencontre justement avec c'est intéressant cette rencontre avec Richard Burton sur le tournage de Cléopâtre, elle est autour d'un geste en fait que dans le livre Liz Taylor aurait vu des années plus tôt sur un bateau, c'est-à-dire un homme qui prend la main d'une femme, qui la pose sur sa verge, la femme la retire, l'homme reprend la main et la femme laisse la main sur la verge de l'homme. C'est quelque chose qu'elle voit très jeune et qu'on retrouve ensuite dans sa vie. Comment vous avez bâti ?
C'est inventé.
J'imagine bien que c'est inventé. Ça, j'imagine bien que c'est inventé. Mais dès le départ, il y avait cette volonté de travailler comme ça des motifs qui vont revenir.
Non, c'est venu à un écrivain.
Parce que ce n'est pas la seule chose, hein. Il y a plein de paroles qui reviennent.
C'est venu à un écrivain et le point de départ est la question posée. A-t-elle vraiment dit ça ?
A-t-elle dit cela ? A-t-elle pu dire cela ? A-t-elle vraiment pu dire cela ? Peut-être pas. Peut-être l'a-t-elle simplement pensé distraitement. Oui, distraitement, je veux dire, sans y prêter attention, c'est la première phrase.
Voilà, c'est le point de départ, c'est ça. Tout va être mis en doute. Aucun geste n'est réel, tout est douteux. Au double sens du mot, d'ailleurs. Ouais. Au double sens du mot. Et la scène inventée de la rencontre entre l'homme et la femme, et pour essayer de comprendre pourquoi l'attitude du féminin par rapport au masculin et du masculin par rapport au féminin est différente et en quoi elle diffère. Et est-ce que c'est juste aussi de le penser ainsi, tel que je l'ai transcrit, si vous voulez. C'est plutôt une scène félinienne, à la limite, sur ce grand bateau qui part et où elle décide un certain nombre d'éléments constants de sa vie, en fait. Et franchement, c'est l'écriture qui pousse à dire les mots. C'est l'écriture qui pousse à dire les mots. J'avais un seul principe dans cette histoire. C'est, à part le fait de ne pas donner d'éléments réels, parce qu'ils étaient tous contestables, c'était de garder l'attention de l'écriture d'un bout à l'autre des chapitres jusqu'à la fin du livre. Ça a été d'une difficulté énorme. J'ai sué les 7 chemises de sang du Christ.
Que ça !
Mais c'était aussi l'amour pour la volupté de ses yeux, en fait. Voilà.
Donc, sa passion pour les couilles, passe 123, c'est quelque chose que vous avez aussi inventé.
Oui, évidemment.
Bien sûr. Manu Farine.
Alors, une autre figure, malgré tout, bien réelle, celle-là traverse le livre, hein, comme une sorte d'effet miroir, celle de Vivienne Leigh, avec qui elle partage, écrivez-vous, cette finesse aiguë dans l'exacerbé. L'autre, elle, hein, contre laquelle il lui faut peut-être même travailler. Qu'est-ce qui se joue entre ces deux-là ?
En réalité, dans toutes les biographies, on n'en parle jamais. Et je ne sais plus où, j'ai à un moment donné ramassé cette petite information que son idole préférée, à un moment donné, c'est Vivien Leigh, qui est un peu plus âgée qu'elle et qu'elle va profondément imiter. Donc à partir de cette petite information, j'ai bâti aussi une ombre ou une âme.
qui plane enfin, vraiment tout le long du récit.
Qu'on retrouve même à la fin, quand elle prend la parole.
Voilà, c'est ça. En fait, elle meurt sur The Young Light, en fait. Oui. Mais c'est vraiment un alter ego très puissant pour elle et qui est le seul moment où elle puisse déjouer les jeux de sa mère. C'est le modèle sur lequel elle va se, auquel elle va se confronter en fait, pour être toujours meilleure, par exemple, hein, alors qu'elle ne sera peut-être pas meilleure que Vivien Leigh. Enfin, elle sera sans doute plus belle, différemment belle. Elle gagnera quand même 2 Oscars comme elle. Enfin, elle fait beaucoup de choses comme elle. Enfin, et il y a cette origine commune qui est Londres. Qu'elle renie en partant définitivement aux États-Unis, alors que l'autre ne renie pas du tout son sa nature anglaise, enfin, de Royaume-Uni.
Alors les films évoqués, ce sont ceux qui ont transformé Elizabeth Taylor. Il y a Une place au soleil, simplement évoqué, il n'y a pas le titre, 1951, Soudain l'été dernier, c'est son triomphe en 59, et un film qui compte moins, a priori, dans sa filmographie, c'est La dernière fois que j'ai vu Paris, de Richard Brooks, en 1954. Vous revenez plusieurs fois sur ce film. Qu'est-ce que ce film-là vous permet d'écrire et de dire sur elle ?
Bon, je dois dire d'abord que j'avais rassemblé 80 films d'Elizabeth Taylor, et je ne les ai pas regardés. À force d'écrire, j'avais quelque chose à dire qui n'avait plus rien à voir avec les films. Et donc, je continuais à écrire, je posticipais les temps de visionnage des films, je n'en voyais pas, etc. Je n'ai vu que ceux que j'avais aimés, dont j'avais encore le souvenir. Et le reste, pour moi, était effacé, si vous voulez.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a ? Ben, il y a d'abord le titre fabuleux, hein, La dernière fois que j'ai vu Paris. Pour un gamin comme moi, à 10 ans, en 54, La dernière fois que j'ai vu Paris, ça résonnait très, très fort. Enfin, déjà, ça, elle est, pour la première fois, splendide en couleur, elle. Le film parfume sa chair, en fait. Voilà. S'embonche sa chair.
Un jour, on dira ça aussi de vous, hein.
Là, on parle de Liz Taylor.
Il y a un acteur, le rôle masculin, Van Johnson, je crois, fantastique. Vraiment, un homme qui a le courage, un homme de 2 mètres et quelques, qui a le courage de pleurer tout le temps dans cette pellicule. Enfin, ce sont autant d'éléments qui ont fait que ça tape sur mes nerfs et sur mon cœur. Et c'est quand même un texte de Fitzgerald Scott, enfin, qui n'est pas n'importe quel scénariste.
Manu.
Comme à tous nos invités cette saison, on vous a demandé de choisir un son qui vous a marqué, et voici ce que vous avez suggéré.
Hey, Amaro! Perché finora tutto! Quel odio! T'aspira a incatenarmi all'esistenza, a una vita che mi esclude dall'immortalità dove il futuro è simile al passato, non ho tregua.
Identification de cette voix et pourquoi l'avoir choisie, Jean-Paul Manganaro.
C'est Carmelo Bene, je pense que c'est Manfred de Byron sur les musiques de Schumann.
Oui.
La Scala à Milan, enfin bon, c'est beaucoup. Ça a été un révélateur linguistique. La première fois où j'ai entendu la voix de Ben, et c'était en 1969 à propos de Notre-Dame des Turcs, j'ai été vissé.
Le film
qui commence avec ce monologue incroyable où le château parle. C'est un château qui parle. Et cette voix, je suis resté nu, pauvre, démuni, ayant perdu tout argument. L'investissement de cette voix dans cette langue italienne splendide était plus fort que de voir une déesse. Enfin, vous comprenez ça ? Je ne sais pas, ça m'a désarmé, désarçonné. Je suis resté là pendant 2h30 à entendre cette voix. Le même effet lorsqu'il a lu pour la première fois, devant un public de 300 000 personnes, quand même, à Bologne, quelques chants de Dante de la Divine Comédie. Voilà, cette. rendre toute sa puissance à la langue en dedans et en dehors du sens.
Et c'est un traducteur romancier qui parle.
J'étais amoureuse de lui, donc voilà. Et alors, il y avait une scène où il me jetait contre une porte vitrée.
Atmosphère.
C'est drôle, mais en même temps, il y a une vraie cruauté.
C'est fabuleux.
Merci à nos invités. Léa Drucker, Un amour qui ne finit pas, c'est jusqu'au 11 juillet au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Puis je vous rappelle qu'on peut vous retrouver dans Le Bureau des Légendes, paru en DVD sous le label Studio Canal. Et puis Jean-Paul Manganaro, listé autobiographie, apparu chez POL. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain...
Écoute, je brûle d'impatience d'entendre ce que tu vas me raconter. Alors, je t'écoute. Donc, ça se passe à notre époque. Oui. Ah, attends, excuse-moi. Ça sent le tabac froid, non?
Ouais, c'est parce que j'ai fumé sûrement, je crois.
Tu sens comme c'est désagréable? Ça file quasiment la gerbe.
Demain, un effet de réalité avec Jonathan Lambert pour le film de Quentin Dupieux. Et puis avec à ses côtés, Emmanuel Burdeau. La des annonces, Elsa.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Émilie Chaudet, Manou Farine, Aïssa Twendoy, Elsa Béranger, journal de la culture Zoé Sfez, à la prise de son Jacques Hubert et Thibaut Germez, et à la réalisation Thomas Beau. Vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours et la podcaster sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur Facebook et Twitter.
Et on attend tous vos commentaires. Il est 19h53. Vous êtes sur France Culture. Ben c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée à tous et à demain.